Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Pour dialoguer avec les autres religions, les chrétiens ne doivent pas renoncer à leur propre identité ni faire de compromis sur la foi et la morale. Le pape a reçu en audience les participants de l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Quelques heures avant ça, l'homélie du pape François dans la chapelle Sainte-Marthe, adorer Dieu jusqu'à la fin avec confiance et fidélité, c'est la grâce que nous devons invoquer cette semaine. Dieu lui-même s'est fait pauvre, l'évangélisation doit se traduire par une attention religieuse privilégiée, prioritaire aux plus démunis. C'est un des points abordés par le pape dans son exhortation Evangelii Gaudium, publiée mardi. On y revient avec Michel Roy, le secrétaire général de Caritas Internationalis. Et puis enfin en Belgique, un projet de loi visant à autoriser l'euthanasie dans certaines conditions aux mineurs a été adopté par une commission du Sénat, ce que déplore l'Église. Vous entendrez le père Tommy Scholtes, le porte-parole des évêques belges. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en langue française de Radio Vatican. Dialogue interreligieux et évangélisation ne s'excluent pas mais s'alimentent réciproquement. Le pape François a reçu ce jeudi midi dans la salle Clémentine du Vatican les participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Dans son discours, le pape a souligné devant la cinquantaine de participants combien les chrétiens devaient assumer leur foi, ne pas la cacher. Pour que le dialogue soit sincère et utile, pas question pour François de développer une amitié de laboratoire. C'est son expression, les précisions tout de suite de Xavier Sartre.
Il y a d'abord un constat. Le dialogue interreligieux est une nécessité dans un monde toujours plus petit. Ce dialogue, comme le pape l'a souligné dans son exhortation Evangelii Gaudium, doit être caractérisé par une ouverture dans la vérité et dans l'amour. C'est la seule route pour vaincre la peur générée par les problèmes économiques et politiques et les différences culturelles et religieuses. Mais ce dialogue, insiste François, ne signifie pas renoncer à sa propre identité ou accepter des compromis sur la foi et sur la morale chrétienne. Au contraire, explique le pape, la vraie ouverture implique de maintenir ferme ses convictions les plus profondes. Une fois cette peur vaincue, alors on peut se rendre compte que le dialogue peut être une occasion de grandir dans la fraternité, de s'enrichir et de témoigner. Nous n'imposons rien, nous n'utilisons aucune stratégie sournoise pour attirer des fidèles, mais nous témoignons plutôt avec joie et avec simplicité de ce en quoi nous croyons et de ce que nous sommes, ajoute-t-il. Une fois ce pas franchi, nous pouvons vaincre alors une autre peur, celle que nous éprouvons envers les autres traditions religieuses. Mais selon la pensée commune, la vie en commun ne serait possible qu'en cachant sa propre appartenance religieuse. Mais, dénonce le pape, nous devons avoir le courage et la patience de venir à l'encontre l'un de l'autre pour ce que nous sommes. Le tout, bien sûr, dans le respect des convictions d'autrui et même de ceux qui ne croient pas, précise-t-il. Car pour le pape François, le futur réside dans la cohabitation respectueuse des diversités et non dans l'adhésion à une pensée unique, théoriquement neutre.
Les différents membres du Conseil pontifical étaient réunis cette semaine autour du rôle de la religion dans la société civile. Parmi eux, Mgr Michel Dubost, l'évêque d'Évry en France. Pour lui, le dialogue interreligieux, particulièrement celui avec l'islam, existe véritablement dans son diocèse. Mais ça n'est pas toujours facile, on l'écoute.
Il existe à différents niveaux. Il y a le niveau des responsables. C'est-à-dire que là, il y a un vrai dialogue. Honnêtement, il y a, je crois, beaucoup d'endroits où ça dialogue. Et puis, il y a les gens. Dans les gens, comme on dit, il y a des endroits où ça ne dialogue pas du tout et où même en ce moment, dans cette espèce de recherche d'identité qui existe, il y a des gens qui se bloquent sur une identité sans s'ouvrir du tout aux autres. Et donc notre fonction, c'est non seulement de dialoguer entre nous, mais de faire que les gens dialoguent entre eux. Il y a beaucoup de choses qui sont très positives, mais paradoxalement, il y a en même temps des durcissements dans un certain nombre de milieux. Je vois dans mon immeuble, ça marche très bien. On se connaît très bien, mais par exemple avec des gens qui étaient de ma ville, là, à l'heure actuelle, l'imam n'ose plus serrer la main de la responsable femme du dialogue avec les interreligieux parce que dans sa communauté, ça serait mal reçu. Il est clair qu'il y a eu une tentative, une réflexion d'un certain nombre de musulmans pour halaliser, si j'ose ainsi s'exprimer, pour donner de l'identité aux musulmans qui sont là, et ceci a plutôt pris dans un certain nombre de milieux de jeunes qui se nourrissent plus de ce qui se trouve dans les médias que de ce qui se trouve dans leur famille. Et ils reprocheraient presque volontiers à leurs parents de ne pas être assez musulmans. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que le Concile a dit il y a 50 ans n'est pas resté lettre morte. Ce n'est pas resté quelques phrases dans un beau livre relayé souvent en rouge. C'est devenu la vie de l'Église. Et c'est ça que je retiens. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, il faut bien dire, quand on a commencé le Concile, on ne pensait pas qu'on ferait quelque chose sur les musulmans. Et des gens ont réfléchi dans le cadre de ce renouveau de leur cœur, de leur foi, au moment du Concile. Et aujourd'hui, nous le vivons. Ça, c'est extraordinaire.
Monseigneur Dubost au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Certains pouvoirs de ce monde voudraient que la religion soit une chose privée, mais Dieu doit être adoré avec confiance et fidélité jusqu'à la fin. C'est la réflexion du pape François ce jeudi matin lors de la messe célébrée en la chapelle Sainte-Marthe au Vatican. Les chrétiens qui sont aujourd'hui persécutés, a déclaré le pape, sont le signe qui annonce la victoire finale de Jésus. Tout de suite, les explications de Jean-Baptiste Cocagne.
Partant du passage de l'Évangile qui parle de la profanation du temple, le pape en a parlé comme de la profanation de la foi qui sera le cœur de l'épreuve finale. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce sera comme le triomphe du prince de ce monde, la défaite de Dieu, a expliqué le pape. La désolation de l'abomination porte un nom précis, l'interdiction d'adorer. On ne peut pas parler de religion, ce serait une chose privée, nous dit-il. Les symboles religieux sont enlevés, on devrait obéir aux ordres donnés par les pouvoirs de ce monde. On peut faire un tas de choses, de belles choses, mais pas adorer Dieu. Interdiction d'adorer, voilà le centre de cette fin, a encore affirmé le pape. Et les chrétiens qui souffrent de persécution, qui doivent supporter l'interdiction d'adorer, sont une prophétie de ce qui arrivera à tous, a déclaré le pape. Pourtant, a-t-il conclu, à partir du moment où le temps des païens est accompli, c'est alors le moment de se redresser, parce que la victoire de Jésus-Christ est proche. N'ayons pas peur, il nous demande seulement fidélité et patience.
Et retour maintenant sur la première exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. Elle a été publiée mardi, un texte au ton très personnel. Le pape y livre sa pensée, précise en quelque sorte les contours de son programme. Il appelle ainsi l'Église à être créative et aux portes ouvertes. Cette exhortation apostolique ne se veut pas post-synodale, mais pour autant le pape développe le thème de l'annonce de l'évangile dans le monde actuel en prenant appui, bien sûr, sur les travaux du synode sur la nouvelle évangélisation qui s'est déroulée au Vatican en octobre 2012. Une place privilégiée et accordée aux pauvres. Dans ce texte, le pape qui rappelle que Dieu lui-même s'est fait pauvre. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire par une attention religieuse privilégiée, prioritaire. Des paroles qui résonnent de façon toute particulière pour le secrétaire général de Caritas Internationalis. Je vous propose d'écouter Michel Roy.
L'option préférentielle pour les pauvres, je dirais que c'est intrinsèque à la mission de l'Église. Et dans l'expérience qui est la nôtre dans le réseau Caritas, le pauvre ne peut pas être simplement un ventre à nourrir, quelqu'un vers qui s'abaisser pour donner quelque chose. C'est quelqu'un qui non seulement doit pouvoir être accompagné dans sa recherche d'une vie plus juste, plus digne, mais c'est quelqu'un qui doit être écouté, qui doit être sollicité. On s'aperçoit que les bonnes solutions aux problèmes, elles ne viennent souvent pas de ceux qui les pensent à l'extérieur, mais de ceux qui les pensent de l'intérieur. Et donc, des pauvres eux-mêmes. Alors, ce n'est pas spontané, ça ne vient pas comme ça. Des gens qui vivent leurs problèmes de manière passive, souvent résignée, ne vont pas simplement du jour au lendemain devenir promoteurs d'idées. Il faut donc les accompagner, il faut entrer dans une démarche d'animation, dans une démarche dynamique avec eux. Mais en général, on s'aperçoit que c'est eux qui ont la solution. Donc, c'est un travail conjoint à faire. Donc repartir des pauvres, et pas seulement pour trouver des solutions sociales à leurs problèmes, mais je pense aussi dans l'Église, repartir de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont pour Dieu, pour construire la communauté chrétienne. C'est ce que le pape nous invite à faire clairement dans cette exhortation apostolique.
Il rappelle d'ailleurs qu'il désire une Église pauvre pour les pauvres et que l'Église a fait une option pour les pauvres.
Oui. C'est une invitation à se dépouiller qui nous fait à nouveau. C'est difficile d'être en relation avec quelqu'un qui vit dans la pauvreté si on vit soi-même dans l'aisance et dans la richesse. Donc il faut arriver à se dépouiller. Beaucoup de donateurs et beaucoup de bénévoles, de gens qui s'engagent. On peut s'engager personnellement en donnant de son temps, de son énergie, mais on peut aussi s'engager en partageant ce que l'on a. Dans le réseau Caritas, beaucoup de personnes qui un jour sont donateurs et qui partagent peuvent devenir bénévoles. Et en tout cas, j'ai vu beaucoup de personnes se convertir, découvrir la profondeur de la nature humaine, de la réalité de la nature humaine que notre monde moderne a beaucoup dissipé, a beaucoup fait disparaître. On reste très superficiel pour retourner à l'essentiel. Ça se fait dans la relation avec des personnes qui sont face à des problèmes fondamentaux de leur vie, de leur survie.
Dans cette exhortation, le pape François appelle donc à poser un autre regard sur les pauvres. Il invite tous les chrétiens, les laïcs, les membres du clergé, à un réveil des consciences. C'est un long cheminement.
Oui, mais on ne part pas de rien. Donc c'est une affirmation, je dirais, et une volonté d'aller plus loin encore. Il nous donne le chemin, ou en tout cas il nous encourage sur le chemin qui est déjà pris. Je pense à Diaconia en France, à la Pentecôte cette année. Je crois que l'Église a toujours été en chemin, et le pape cette fois nous donne un petit coup de fouet pour aller encore plus loin sur cette route. Et ça trouve un écho très fort dans tous nos réseaux engagés dans des actions de solidarité. Et il y a quelque chose d'important pour nous. Il cite régulièrement quelques catégories de personnes, les migrants. Et il revient aussi sur les victimes de la traite des personnes, quelque chose qui visiblement l'a marqué. Il parle aussi de ceux qui ont faim. Il ne s'agit pas de donner à ceux qui ont faim, il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait plus faim et que l'on agisse pour qu'il n'y ait plus faim. Il y a assez de nourriture sur la planète pour nourrir tout le monde.
Il appelle d'ailleurs à ne pas apporter de réponse seulement provisoire, mais à s'attaquer aux causes structurelles de la disparité sociale. C'est le travail que fait notamment Caritas.
Tout à fait. On se sent complètement encouragé. On l'était déjà par les papes précédents. Dans le chapitre 4 de cette exhortation apostolique, où il présente les défis du monde contemporain, effectivement, il dénonce le système économique en disant qu'il est injuste à sa racine, que c'est une économie qui tue parce que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Il est très fort dans ses paroles. Il parle d'un marché où règne la spéculation financière, la corruption, l'évasion fiscale. Ce sont des choses très, très concrètes et sur lesquelles, je crois, l'Église travaille en profondeur. Donc c'est vraiment un encouragement. C'est une invitation à nous remettre tous en perspective, une invitation à sortir de soi, de son cocon communautaire aussi en tant que communauté chrétienne, en tant que paroisse, en tant que groupe, pour aller vers les périphéries. Une invitation à agir pour plus de justice, à agir sur les causes de la pauvreté, à ne pas avoir peur d'aller dénoncer, d'aller défendre et d'aller promouvoir une autre politique au service des plus pauvres. Chacun, là où il est, peut, et chacun, parce qu'il peut, doit contribuer à construire une société avec plus de fraternité, plus d'amour.
C'était Michel Roy, le secrétaire général de la Caritas Internationalis. Il est interrogé par Hélène Destombes. François voudrait-il être mieux informé? C'est la question qu'on se pose. Ce jeudi, le pape a en effet nommé son secrétaire particulier, une personne de confiance, déléguée pour les commissions pontificales sur l'Institut pour les œuvres de religion et sur l'organisation de la structure économique et administrative du Saint-Siège. Le prêtre malais Alfred Xuereb devra ainsi veiller et tenir le pape François informé de l'avancée des travaux des deux commissions, et ce en collaboration avec la secrétaire d'État. Interrogé par des journalistes, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, le père Lombardi, a précisé que cette nomination explicite permettra aux plus proches collaborateurs du pape de réaliser correctement son travail de coordination. Les deux commissions, instituées en juin et en juillet dernier par François, travaillent actuellement intensément, a par ailleurs confié au journaliste le père Federico Lombardi. En Belgique, les commissions des affaires sociales et de la justice du Sénat ont adopté ce lundi le projet de loi visant à autoriser l'euthanasie dans certaines conditions aux mineurs. Selon la nouvelle loi, l'euthanasie pourra être appliquée aux enfants de moins de 18 ans dont un psychologue aura reconnu la capacité de discernement. Le projet de loi a été adopté en commission par 13 voix contre 4, une décision qui provoque la colère et la tristesse des responsables religieux dans le pays. Le père Tommy Scholtes est le porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique.
Effectivement, nous sommes assez désolés et tristes de voir que, même si ce n'est que en commission du Sénat, cela donne quand même une orientation de ce qui va se passer peut-être dans quelques mois au Sénat. Et donc, cette loi, nous l'avons critiquée dès le départ et nous regrettons aujourd'hui qu'elle ait été votée en commission.
Vous rappelez que beaucoup de médecins plaident pour la prolongation et le maintien des soins palliatifs, des médecins qui, selon vous, ne sont pas suffisamment entendus.
Non, je crois qu'effectivement, ça fait partie des débats. Il y a des médecins qui sont évidemment pour l'euthanasie, il y a des médecins qui sont contre l'euthanasie, selon leur orientation. Même des médecins qui ne sont pas nécessairement catholiques disent que la meilleure manière de mourir pour un enfant s'il est en fin de vie à cause d'un cancer, c'est par l'intermédiaire des soins palliatifs et une éventuelle sédation. Et il n'y a pas besoin pour autant de donner un acte de mort pour achever la vie de cet enfant, pour autant qu'on puisse parler de cette façon.
Comment vous expliquez cet empressement, semble-t-il, des pouvoirs publics à vouloir légiférer sur cette question aussi délicate ?
Je pense que depuis des années déjà en Belgique, il y a un phénomène où, soi-disant, au nom de la démocratie, on peut voter un certain nombre de choses. Et donc, on a voté l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, toutes ces questions extrêmement délicates qui sont en fait le signe d'une espèce d'individualisation et d'une espèce d'autonomie de la pensée, mais mal pensée selon moi. Et par conséquent, on arrive à une manière de dire que la vie m'appartient, que j'ai donc le droit d'en décider, que quelqu'un qui est malade, que quelqu'un qui est dans une situation très grave peut donner une orientation, alors que la vie chrétienne, la vie humaine telle qu'elle est vue par un chrétien, elle a quand même un don sacré. Et nous constatons aujourd'hui que c'est l'ensemble des chefs religieux de la Belgique qui ont signé une déclaration marquant leur opposition et leur déception.
Tous les chefs religieux se sont insurgés contre ce projet de loi, avez-vous dit. Quelles sont les véritables conséquences anthropologiques? On a l'impression que seules les différentes voix religieuses s'expriment pour montrer les dangers de ce projet de loi.
Les responsables religieux se sont exprimés. Ils se sont déjà exprimés il y a une quinzaine de jours avant que ce vote intervienne. Cette déclaration des responsables religieux avait été peu répercutée par les médias, surtout les médias belges. Ils avaient été très répercutés par les médias étrangers. Et donc, cela fait partie de la situation de la Belgique où un certain nombre de personnes visent cette autonomisation et visent une situation, une vision individuelle de l'homme qui a, entre guillemets, droit à la vie et droit à s'organiser sur sa vie. Et donc, nous essayons de recadrer cela dans un lien beaucoup plus social en disant que nous sommes des individus qui ne vivons pas individuellement, nous sommes une société et des médecins ou des infirmières ou une famille qui est en train de décider ce genre de choses, mais provoque finalement une rupture non seulement d'une vie, mais une rupture de lien social. C'est ce que nous exprimons depuis des semaines et nous le disons et nous le redisons.
Vous pensez que l'argument justement du lien social peut être entendu en Belgique ?
Je pense que nous sommes dans une situation qui est une très grande ambiguïté. Le citoyen pense que euthanasie et bonne mort, c'est la même chose. Je comprends que tous les citoyens, quand on leur demande leur avis, ont envie d'avoir une mort qui ne fasse pas trop souffrir. C'est normal, moi aussi j'ai envie d'avoir une mort qui ne me fasse pas trop souffrir un jour. Mais une chose est d'avoir une mort qui ne me fait pas souffrir et autre chose est de demander à quelqu'un de pratiquer un acte qui donne la mort. Et ça, nous ne pouvons pas évidemment l'accepter comme chrétien.
C'était le père Tommy Scholtes, porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique. Il était interrogé par Olivier Bonnel. Objection de conscience. En Irlande, le secrétaire général du congrès eucharistique organisé en 2012, il démissionne du directoire d'un grand hôpital catholique de Dublin. Le Mater Misericordiae University Hospital va devoir en effet pratiquer les interruptions volontaires de grossesse à la suite de l'adoption d'un texte par le Parlement l'an dernier, le Protection of Life During Pregnancy Act, une loi qui autorise l'avortement lorsqu'il existe des risques substantiels et réels pour la vie de la femme, y compris celui du suicide. Préoccupation des chrétiens au Pakistan, instrument de vengeance personnelle ou d'oppression des minorités, le nombre de dénonciations contre leur communauté pour des cas de blasphème contre l'islam est en recrudescence. Selon les sources locales citées par l'agence missionnaire Vatican Fides, 4 cas ont été recensés en un peu plus d'un mois, soit 4 fois plus que la moyenne mensuelle enregistrée au cours des 2 dernières années au Pakistan. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va.